Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire combien je suis heureuse d'être ici. Allez, et puis, cette fois-ci, je vais dire à l'INRP, et en présence d'amis de l'INRP. Et puis, parce que c'est une formation dont Marie-Odile m'a parlé, et quand j'ai vu le programme, je me suis dit, c'est extraordinaire, la qualité des problématiques, l'intérêt des... Et finalement, ça se fait très peu. Il y a très peu... Autrefois, les CEPHISEM organisaient un peu des réunions comme cela, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un programme aussi copieux, dense et intéressant sur ces problèmes. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air du tout abattu, donc ça va bien. Alors, mon propos va être assez différent. Je n'ai pas les compétences linguistiques, je ne vais pas entrer dans certains problèmes que vous avez étudiés, mais j'espère que ce que je vais dire va peut-être entrer en écho au travail que vous avez fait sur, au fond, le rôle de l'école par rapport à ces jeunes qui arrivent de loin et souvent dans des conditions très difficiles. Vous l'abordez à partir de l'obstacle premier qu'il rencontre, qui est la langue. Donc, j'aimerais commencer par quelques remarques préalables, et puis ensuite, peut-être aborder quelques fausses questions, pour essayer de trouver peut-être quelques vrais problèmes. parler des langues des migrants en tant que système de représentation, parce que ça entre tout à fait dans les questions de l'intégration de ces jeunes, pour évidemment parler ensuite plus précisément de l'école, le lieu essentiel de l'intégration des jeunes, les voies de l'intégration, les obstacles, et puis terminer un petit peu sur ce que je pense aujourd'hui de la situation de l'intégration de ces jeunes, qui est malheureusement très difficile. Alors, ces jeunes, ceux qui sont avec des parents en situation régulière, vous savez à peu près combien ils sont. Ils entrent dans le cadre soit du regroupement familial, soit certains, alors toutes les formes de familles rejoignantes. Et ils représentent environ 6% de l'immigration. Mais il y a aussi les mineurs isolés, qu'il ne faut pas oublier. Ces mineurs isolés qui sont maintenant à peu près 8000 en France. Et certains obtiennent le statut de réfugié après avoir été pris en charge par l'ASE. Ils ont été dans des situations très difficiles, ça s'améliore un peu. Et je vous signale un excellent livret qui vient d'être publié par France Terre d'Asile sur la situation de ces mineurs isolés réfugiés. Il y a d'ailleurs un chapitre sur la relation à l'école. Et parfois, les difficultés de relation entre l'ASE et l'école. Ils sont très divers, hein. Vous avez dû en entendre parler dès le début, une grande diversité d'origine, mais avec évidemment une prédominance du continent africain. Les origines du continent africain, c'est aujourd'hui 61%. Voilà. Donc ça, c'est un petit cadrage. À un moment où les politiques se font de plus en plus restrictives, plus les politiques se font restrictives, plus les trafiquants prennent en charge les filières, notamment avec des jeunes, notamment avec des mineurs. Et il y a une situation qui est vraiment comparable à de la traite des êtres humains. Et Interpol, d'ailleurs, suit ces filières. Mais nous sommes aujourd'hui, il y a une logique, hein, plus les politiques deviennent restrictives, plus il y a de filières migratoires organisées par des trafiquants et plus les prix sont chers. Je tiens à signaler, puisque je suis au bureau de France Terre d'Asile, que malheureusement la France a augmenté le prix du visa en Tunisie à partir donc de la révolution du printemps. et qu'évidemment c'est extrêmement difficile maintenant pour obtenir un visa. C'est-à-dire c'est au moment où il y a démocratisation en Tunisie, mais on craint l'afflux de réfugiés, qu'on augmente le prix des visas. Il faut que vous sachiez aussi que c'est quasiment maintenant impossible de demander l'asile dans un consulat de France, dans un pays étranger. Il faut arriver sur le territoire national pour demander l'asile. Bref, je ne développe pas, mais disons que les conditions deviennent très difficiles. Dans le même temps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport qui vient de paraître il y a 2 jours sur l'Europe de la diversité à l'initiative du Conseil de l'Europe. Et pour répondre à la montée de la xénophobie dans les pays européens, avec une réflexion sur l'Europe doit se reconnaître comme diverse. On va en parler un peu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce mot de diversité ? Bon, ça c'était en toile de fond, mais n'oubliez pas cette toile de fond, parce que les élèves avec lesquels vous allez travailler, eux, ils vivent tout ça. Ils ne vont pas forcément en parler, ils ne vont pas le dire, ils vont se taire. Parfois, ils vont l'exprimer dans des dessins. Mais il y a des trajectoires de souffrance derrière tout cela, d'inquiétude, d'angoisse, qui évidemment rendent le contact avec la société d'accueil, avec l'institution de la société d'accueil, qu'est l'école, pas forcément facilité au départ. Et en même temps, ça va être le lieu de toutes les attentes. Si j'ose dire, les secondes ou troisième génération ont beaucoup moins d'attentes à l'égard de l'école que ces jeunes primo-arrivants. Ils vont avoir beaucoup d'attentes, beaucoup d'aspirations. Donc il faut essayer d'entendre tout ça. Alors quelques remarques préliminaires. Il faut travailler sur les questions de langue et en même temps se dire, mais de quoi parle-t-on ? Les aristocraties européennes parlaient plusieurs langues. Dès le plus jeune âge, les enfants apprenaient avec des gouvernantes étrangères une ou plusieurs langues européennes. Ils n'étaient pas forcément dans des situations de diglossie. Autre remarque, depuis un siècle et demi, la France est un pays d'immigration. Ça a été le premier pays d'immigration en Europe, alors que tous les autres pays européens étaient des pays d'émigration. Un siècle et demi d'immigration, ça veut dire des générations d'enfants qui sont passés par l'école de la République. Et parmi les enseignants, parmi même le chef de l'État, beaucoup sont passés par l'école de la République. Et quand on a fait par exemple une réunion avec les dignitaires religieux sur la liberté d'expression religieuse dans la société française, tous ont dit, mais nous sommes des, et c'était extraordinaire comme expression, nous sommes les enfants de la laïque. Alors aussi, il ne faut pas oublier que l'on a cette antériorité historique par rapport à d'autres pays, et théoriquement une expérience. Demander à tous ces jeunes qui étaient les enfants assyro-chaldéens dans les années 20, les enfants juifs qui fuyaient en Europe centrale toutes les répressions, le nazisme, etc., sont passés par l'école de la République. Alors il y a à la fois une expérience et en même temps, l'époque n'est pas la même. Mais n'oublions pas cette expérience et n'oublions pas que quand on a commencé à faire des langues et cultures d'origine, les fameuses ELCO, on a commencé à l'accepter par des conventions bilatérales avec les pays d'origine et que c'était une façon pour les pays d'origine de contrôler leurs ressortissants. Et que ça n'a pas été très simple et avec un imaginaire que tout migrant a au départ, le mythe du retour. Donc, Yara, moi je suis là pour vous donner le contexte de la relation, justement, à la langue. Et cet imaginaire va changer, va s'inscrire dans une trajectoire. Et vous êtes un moment clé de la trajectoire. La troisième remarque, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de nombreuses familles qui sont, pardon pour l'expression, mais des multinationales à elles seules. qui vivent dans plusieurs pays à la fois. Simplement, ceux qui sont dans ces multinationales, elles travaillent dans les multinationales. Elles ont une relation au territoire, à la langue, aux frontières, bien différente que la majorité de ces enfants de migrants que vous allez avoir dans vos classes. L'intériorisation de la mondialisation a créé des inégalités considérables entre ceux qui ont le pouvoir économique, ceux qui ont le pouvoir intellectuel, que donne notamment l'école, ceux qui ont l'appropriation de l'information, et les autres. Mais il est toujours très important d'inscrire ces jeunes dans cette mondialisation, parce qu'ils sont une autre forme de mondialisation. Et il y a ceux qui en profitent et ceux qui en sont plutôt victimes. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est que pas très loin de la France, il y a des pays où on apprend non seulement la langue nationale, et pas seulement des langues étrangères, mais une langue étrangère, comme par exemple l'anglais, comme étant quasiment à égalité avec la langue nationale. Vous allez dans une école, par exemple dans un collège, en Norvège, vous êtes étranger, les élèves qui sont là vous interpellent immédiatement en anglais et vous posent des questions en anglais. Il y a une relation à la multiplicité de langues, en tout cas au moins deux langues, tout à fait remarquables. Et ça, c'est tous les pays du nord de l'Europe, en Hollande, en Norvège, en Suède, en Finlande. Voilà, des remarques préalables. Alors, justement, est-ce qu'on ne se pose pas beaucoup de fausses questions? On a fait beaucoup de statistiques sur ces questions-là à un moment donné, en rapportant les résultats statistiques à la variable origine ethnique. C'est une des variables. Ce n'est pas forcément la plus importante. Et n'oubliez pas que quand on dit immigré aujourd'hui, dans l'usage des termes, on ne passe pas du tout aux enfants d'Allemands ou d'Américains qui vivent en France. On a le terme immigré, qui est pourtant un terme objectif, c'est être né étranger à l'étranger et vivre maintenant en France, et entre-temps on peut avoir acquis la nationalité française. On utilise le terme immigré pour le continent africain, les anciennes colonies, il faut être très clair. Non, pas les Chinois, on ne dit pas immigré, on dit Chinois. Parce qu'ils ont une nationalité, le statut des langues c'est aussi un statut des pays. Et ça rentre dans le développement inégal. Donc, tout ça fait qu'il va y avoir un vécu de la langue et de l'entrée dans le pays d'accueil et l'institution du pays d'accueil qui va être marqué par ces aspects-là. Donc, les différences linguistiques, si on les rapporte uniquement à l'origine, on peut biaiser complètement les interprétations. Et on peut faire ce que l'on fait dans le travail social actuellement, de l'ethnicisation. Alors, comment à la fois prendre ça en compte sans tomber dans l'ethnicisation? Vraie question. Surtout que la France est un pays où il y a des formes de ghettoisation, le terme n'est pas tout à fait exact, mais enfin, bon, disons schématiquement des formes de ghettoisation de certains quartiers, mais nous sommes reconnus par tous les experts étrangers comme étant un pays d'une extrême diversité. Nous sommes l'exemple même de la diversité. Nous sommes l'exemple même, nous sommes les champions des mariages mixtes, de très loin. Ce qui est important pour un pays d'immigration, c'est l'inverse des États-Unis. Vous savez que le mariage interracial aux États-Unis a été interdit jusqu'en 1967. Il n'a jamais été interdit en France. Nous avons un imaginaire de l'immigration qui est un imaginaire où les immigrés entrent progressivement dans la communauté nationale. Plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de difficultés. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout ce schéma-là. C'est le schéma de la double violence. Première violence, on rompt avec le pays d'origine et on n'y revient pas, quand on est américain, on est américain. Et on a fait cette première rupture. En France, non. On est tout le temps, on va en parler, dans la double nationalité, dans les allers-retours, dans les... C'est pas du tout l'imaginaire de la rupture avec le pays d'origine. D'où des problèmes encore à la troisième génération par rapport au pays d'origine. Et puis, l'extrême violence de l'imaginaire d'un pays qui se croit comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, c'est les exemples les plus remarquables, fondés par l'immigration, des pays qui ont 2 siècles, et les autochtones. Durand-Dupont est un autochtone. Ça change complètement la relation au pays d'immigration. Alors, les différences linguistiques, les obstacles, les problèmes vont s'inscrire dans cette histoire. Mais de toute façon, ce qui caractérise la migration encore plus que les autres réalités, c'est le cumul de facteurs en termes de ruptures successives, de problèmes de rupture dans la transmission, de relation à une mémoire qui va être une mémoire fragmentée. Donc la transmission de la langue, elle va entrer dans ces mémoires fragmentées. Et les facteurs qu'on retrouve le plus souvent, la faible scolarisation des parents eux-mêmes, pas chez tous, mais la faible scolarisation des parents ou l'analphabétisme. Donc on cumule, c'est pas seulement une origine ethnique, c'est pas la même chose d'être enfant de professeur d'université tunisien qui vient à Paris aujourd'hui, ou être enfant d'un paysan qui venait de zones reculées et qui n'était jamais allé à l'école. L'exil est forcément une rupture, mais souvent c'est des ruptures à plusieurs niveaux. Vous partez de la zone rurale, vous passez en ville, et de la ville, vous avez à nouveau une rupture pour repartir dans un autre pays. Et très souvent, dans le pays dans lequel vous arrivez, vous avez un itinéraire. Donc c'est des trajectoires chaotiques qui s'inscrivent le plus souvent dans des précarités économiques, de vie, de logement. Je ne développe pas. Ce que l'on oublie le plus souvent, c'est qu'une bonne partie des immigrés sont des minoritaires dans leur pays d'origine. Alors la violence symbolique qu'on impose à des jeunes, « Ah, vous venez de tel pays, vous avez telle nationalité », on leur impose la langue majoritaire. Manque de chance, ils sont minoritaires. On a fait des erreurs considérables. Le Turc a des enfants kurdes. Il y avait près de, moins maintenant, mais 80% des Algériens en France étaient kabyles et non pas arabes. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi ils ont fui leur pays? Parce qu'ils étaient minoritaires le plus souvent. Donc vous voyez, il y a eu, je pense aussi aux enfants portugais qui venaient d'Angola et qu'on a traités comme s'ils venaient de Lisbonne. Oui, ils venaient de Lisbonne parce que à un moment donné, ils sont passés par Lisbonne. Mais ils étaient enfants de colons en Angola. Il y a aussi le fait que la situation migratoire, c'est malheureusement très souvent un cumul d'humiliation et de discrimination. C'est la situation dans laquelle on n'est pas reconnu, ça c'est évident, je ne développe pas, vous le savez, et ça s'aggrave à certaines périodes. On ne comprend pas, je pense à ça parce que ça correspond à une discussion que j'ai eue, et comme c'est un personnage public, je peux le dire. Par exemple, l'attitude d'Alain Finkielkraut à l'égard de l'école, si on ne sait pas. Et quand il raconte les humiliations qu'il a subies, et comment l'école de la République, ça a été vraiment, vraiment sa porte ouverte sur le monde, son moyen de reconnaissance, et tout d'un coup, là... Le plaisir d'être soi-même à travers des textes littéraires. Oh, il faut aussi reconnaître ça.
Et y compris dire qu'on n'est pas d'accord avec ses interprétations. Voilà. Mais on comprend beaucoup de choses à partir de l'humiliation et des discriminations. Autre point, c'est un vécu d'instabilité et de crainte. Une famille immigrée, c'est une famille dans laquelle le plus souvent vous avez tous les statuts. Celui qui va être le petit frère qui va être considéré comme français de naissance, le grand frère qui va devenir français à l'âge de 18 ans, la maman qui est arrivée avec un visa de tourisme et qui est maintenant en situation irrégulière, le père qui a un titre de 10 ans. Or, c'est une constante de l'immigration. Vous ne vivez jamais dans une famille le statut le plus stable. Vous êtes toujours sensible au statut le plus précaire. Et donc, il y a ce vécu d'instabilité, d'angoisse par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on le sait vraiment, tout ça? Je ne suis pas sûre. Tous, on a tendance à gommer un peu toutes ces aspérités. Et d'autre part, on va être face à une difficulté, par difficulté d'expression, mais aussi par pudeur, par prudence. Le nombre d'enfants dont on s'est aperçu que les parents étaient en situation irrégulière parce qu'ils ont commencé à parler sur la situation de leurs parents. Et après, c'est la police qui est arrivée pour les expulsions. Question stratégie aussi. Il faut savoir que quand on est migrant, on se pose toujours la question « Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce qu'ils attendent ?» C'est une relation en permanence d'attente. C'est la situation du guichet. Quand vous allez en préfecture, vous dites « qu'est-ce qu'on va me demander ?» Quand vous allez à la sécurité sociale, etc. Et les parents disent toujours aux enfants de migrants, ça toutes les enquêtes le montrent, « fais comme si, dis telle chose, fais telle chose. » Et on essaye de deviner, et pas seulement en France, hein, il y a des films remarquables qui ont été faits là-dessus, où il y a des extraits de littérature qui indiquent bien pour essayer de se faire reconnaître. Alors à la seconde génération, on en a assez, et là, on commence à sacrément critiquer, on n'a plus envie de répondre aux attentes. Mais au début, on essaye de répondre aux attentes. Donc, je pense que c'est important qu'on ait une prise de conscience, on ne saura jamais tout. Non seulement on est dans des trajectoires, dans des ruptures, mais on est dans des zones de secret. Alors, on n'est pas là pour faire de l'inquisition, on est là pour favoriser l'expression. Donc, des prises de conscience de la combinatoire des difficultés, ça me semble absolument essentiel. Pas pour faire du misérabilisme, mais pour se dire, je vais faire avec et non pas pour. On ne fait pas pour les enfants de migrants. Derrière tout ça, ils ont toute leur histoire. Ils ont plein de choses à dire, ils ont leur stratégie. On va essayer progressivement de faire avec. Et ça fait partie des apprentissages et de la volonté ou du désir de s'exprimer. Alors, les langues dans tout ça, donc, c'est fondamental. Vraiment fondamental. Mais l'ennui, c'est que les langues n'ont pas des statuts à égalité. Et justement, avec tout ce qu'on vient de dire, dans la réalité, il va y avoir des représentations et des perceptions qui vont être considérables. Moins maintenant, mais c'était touchant dans les enquêtes que j'avais faites dans le 13e arrondissement d'entendre tous ces enfants d'origine du sud-est asiatique pour dire « la France, c'est la langue de la Révolution française ». Les pauvres, ils ont découvert après que ce n'était pas que ça. Il y a des représentations. Bon, c'est évident qu'on n'apprend pas l'américain comme on apprend l'anglais. L'anglo-américain, il y a derrière toutes les représentations. Derrière du cinéma, des séries télévisées, etc. Bon, donc, il y a des représentations. Mais il y a des représentations par rapport à l'origine. Donc, je vous l'ai dit, le nombre d'enfants kabyles qui n'ont jamais, jamais eu la possibilité d'apprendre la langue kabyle, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la beauté des chants berbères. Et moi, quand je dis, vous savez, j'ai connu Tao Samrouche, les chants kabyles, c'est extraordinaire. Ah, mais moi, je suis kabyle, vous savez. Ils ne savent pas un mot. Et ceux qui savent un mot, ils savent un mot de la petite Kabylie ou de la grande Kabylie. Et vous, vous êtes complètement désarmé face à ça. Et puis ils ont un espèce de, c'est là, on peut le dire, de sabir. Avec, bon, on leur dit, ah, t'es arabe. Alors ils disent, bah oui, je suis beurre. Oui, bah, beurre, rebeu, arabe. On se définit par le colon arabe qui a colonisé la Kabylie. Là, pour avoir des problèmes identitaires extraordinaires. Donc, il y a des représentations. Et n'oublions pas que les migrants, pas tous, mais majoritairement, non seulement pouvaient parler une langue minoritaire, mais une langue minoritaire locale, régionale. Et dans des familles où on avait honte de parler cette langue. Ça, c'est un point qu'on oublie le plus souvent. On leur parle de leur langue d'origine. Dans le pays d'origine, ils pouvaient avoir honte de parler la langue qu'ils parlaient parce que ce n'était pas la langue du pouvoir. Alors, vous voyez sur les ELCO, bon, ça va dire, il y a eu beaucoup de choses écrites, mais je pense que, bon, moi j'avais travaillé un peu sur les ELCO autrefois, et avec Abdelmalek Sayad notamment, on voyait très bien tout ce qu'on n'avait pas voulu entendre derrière tout ça. Et beaucoup d'enfants ont été, avec les ELCO, littéralement l'objet d'un flicage par des associations des pays d'origine. Alors, la relation à la langue... Bon. Dans la migration, il y a trois choses dans les fonctions de la langue sur lesquelles j'aimerais insister. C'est une voie privilégiée de la mémoire familiale. Familiale. Elle a donc une fonction cardinale dans la transmission d'éléments affectifs, communautaires. Deuxième point, elle peut être, la langue, un facteur d'acceptation dans la société d'accueil, de promotion sociale, de reconnaissance et une vraie voie vers l'intégration. Donc les enjeux sont considérables. On ne fait pas ça comme un étudiant qui va étudier une langue dans une université étrangère. Là, c'est existentiel. Un autre point, ça va être dans un pays comme la France, pays qui a une histoire démocratique et qui a une philosophie de la démocratie, de la laïcité, de la citoyenneté, une langue, la langue du pays d'accueil va être une langue de l'individualisation. C'est Azouz Begab qui dit très bien « Je suis passé grâce à la langue française du « nous » au « je ». Donc c'est un usage de la langue. Pour nous, c'est tellement évident. C'est à la fois « nous » et « je ». Nous, nous et « je ». Mais là, c'est une émancipation, individualisation, passage au jeu. Mais ça peut être aussi le passage à l'isolement. Ça aussi, ça peut être le passage à la rupture avec le milieu d'origine. Ça peut être le passage où on se sent un peu traître, on ne parle plus la langue. Des parents où on ne veut plus l'entendre. Ou maman, non, tais-toi. Surtout, tu ne parles pas arabe quand tu viens me chercher à l'école. Voilà. Alors, c'est vraiment là où on a eu historiquement vraiment tort, c'est qu'on a fait un usage de la langue française qui est un usage assimilationniste. Et puis maintenant, on en fait un usage de l'insertion socio-professionnelle. Mais non, la langue, c'est aussi Victor Hugo, c'est aussi Voltaire, etc. Ah, en faire un usage purement fonctionnel, on peut avoir des problèmes ensuite et de non-respect de ce que représente la langue. Et on peut avoir à la troisième génération, comme au Minguette, des informations incroyables qui ressortent sur la langue. On attendait autre chose. C'est vrai aussi qu'on apprend de plus en plus les langues étrangères en France en apprenant... Passez-moi le sel, s'il vous plaît. Moi, j'ai appris l'anglais à travers Dickens et j'ai appris l'allemand à travers Rilke. Eh ben, c'est vrai qu'on était moins doués quand on allait dans le pays, mais ça voulait dire que la langue, pour nous, avait un contenu civilisationnel. Il faut qu'on s'interroge. Comment on peut faire... Alors, l'allemand, à travers Rilke, non, c'est peut-être trop. Il faut aussi apprendre la vie qu'aujourd'hui. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est... Et alors, quand on parle avec des enfants de l'immigration, ou quand on parle à ceux qui, de l'immigration, ont réfléchi sur l'usage de la langue, comme par exemple François Cheng, il écrit des choses extraordinaires sur la reconnaissance de soi à travers la langue. Et la richesse que ça représente, après de revenir à la langue d'origine, en disant, mais je vais l'étudier autrement. Voilà. Alors, on est donc forcément, et ça je sais que Marie-Odile y tenait, dans des processus, dans des trajectoires, dans des dynamiques. Simplement, et on y vient, l'intégration, et c'est là où l'école est un lieu essentiel de l'intégration, c'est un processus irréversible. L'antonyme de l'intégration, c'est la désintégration. L'insertion, vous pouvez toujours réinsérer quelqu'un, et malheureusement, ça a été toutes les mesures de réinsertion, de réinstallation au pays d'origine, avec des expulsions. C'est factuel, l'insertion. L'intégration, c'est beaucoup plus. Et c'est pas non plus l'assimilation, l'assimilation étant la disparition du corps étranger qui est ingéré dans un ensemble. Hein. Bon. Donc l'intégration, qu'est-ce que c'est? Ben, on va essayer de le définir, et je pense que c'est important de les définir. Ben, c'est justement ce que voulait Marie-Odile, pardon. C'est, c'est une marque d'amitié de dire Marie-Jo, parce que c'est une amie qui s'appelle comme ça. Bon, c'est le processus, la dynamique, l'opération d'un terme d'origine mathématique au départ. Même origine qu'intégrité et intégrale, par lequel des éléments différents vont créer une réalité nouvelle. Et quand on est engagé dans ce processus, les politiques ont complètement oublié la définition. Quand on est engagé dans ce processus, c'est forcément, il y a échange, il y a forcément partage, il y a forcément conflit, il y a forcément des oppositions qu'on va progressivement dépasser. C'est vraiment une opération. Une opération au sens, j'allais dire, des sciences exactes. Alors, et c'est donc un processus par lequel, je parle trop faiblement, trop fort, trop... Non, c'est un processus par lequel il va se produire un changement aussi bien dans la société d'accueil que chez vous, aussi bien dans l'école dans laquelle vous allez être que chez vous. Des enfants de migrants dans une école, ça change la vie de l'école. Et donc, cette réciprocité du processus est extrêmement intéressante à analyser, et c'est là où on s'aperçoit qu'on construit ensemble. Je ne sais pas pourquoi les politiques... Si, je sais pourquoi. Bon. Ils font de l'assimilation soft, et puis c'est tout. Ou de l'expulsion. Et comme en plus les voies de l'insertion socio-économique sont de plus en plus difficiles, évidemment, on n'a plus grand-chose à proposer. Alors, les voies de l'intégration, quelles sont-elles? Tout d'abord, une politique d'affirmation des droits. Ça passe d'abord par l'affirmation des droits. Vous allez me dire, ben oui, bon, d'accord. Comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps pour découvrir qu'on avait dans nos écoles des enfants dont les parents étaient en situation irrégulière? Moi, j'étais effarée, ça faisait 20 ans que j'en parlais, et il a fallu quelques événements dramatiques pour que on s'en rende compte. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu dans la formation des enseignants un grand principe? Le droit à l'éducation est supérieur à la situation administrative des parents. Hein? Par exemple. Comment
on n'a pas affirmé qu'en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est de droit positif en France, le droit à la langue, c'est un droit. Alors, pas toujours facile à mettre en œuvre, etc. Mais si on part de l'idée que c'est un droit, on a un changement de perspective, on entre différemment dans la relation à la langue. Alors, sans parler de tous les autres droits, mais le droit à l'éducation, est-ce que vous voyez combien de personnes qui viennent dans le cadre de la migration, on ne leur a jamais parlé de leur droit à l'éducation? Jamais. Et quand on travaille avec les parents, qu'on fait de l'alphabétisation avec les parents, mais oui, il y a un droit à l'éducation, mais surtout pour évidemment les enfants mineurs. Ça, c'est un droit fondamental. Fondamental. Une autre voie de l'intégration, c'est tout ce qu'on appelle les politiques compensatoires des inégalités. Alors, on nous raconte la discrimination positive, mais quelle idiotie ! Toutes les politiques de logement, les politiques économiques, les politiques éducatives sont basées sur l'idée que l'égalité formelle des droits, ça ne suffit pas, parce qu'il y a de telles inégalités réelles qu'il faut des politiques compensatoires. Tout l'État-providence est fondé sur la notion de politique compensatoire. Et historiquement, dès les débuts de la démocratie, à Athènes, on savait que l'égalité réelle et l'égalité formelle, c'était différent. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Le problème, c'est pas de dire ça, c'est de dire comment. Comment, progressivement, on sort le plus possible des inégalités réelles pour aller vers quelque chose qui serait une égalité beaucoup plus complète et plus proche de l'égalité des droits. Lié à ça, vous avez des politiques incitatives en direction des plus vulnérables, des plus fragilisés. Et ce qui se passe avec les CASNAV, ce qui se passait avec les RASED, ce qui se passe avec les CLAS, ce qui se passe avec la réussite éducative, c'est typiquement des politiques en direction de ceux qui ont le plus de problèmes, qui sont les plus fragilisés. Alors on vous dit, est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive ethnique ? Quelle imbécilité ! Quelle imbécilité ! Dans quel pays on fait de la discrimination positive à raison de l'ethnicité ? Dans ceux où il n'y a pas d'État-providence ? Dans ceux où il n'y a pas de sécurité sociale ? Dans ceux où il n'y a pas un droit du travail qui fait que vous avez, par exemple, des compensations en matière de licenciement et des voies de recours? Bien sûr que les États-Unis font de la discrimination à raison de l'ethnicité. Ils n'utilisent d'ailleurs pas le terme discrimination. C'est anticonstitutionnel. Mais pour cause. La seule façon de faire valoir ses droits, c'est le lobbying. Et Obama opère dans l'Amérique post-raciale. Dans l'Amérique post-raciale, une véritable révolution sur ce point. Et, comme disaient deux sénateurs que nous avons reçus, mais on va de plus en plus vers un modèle à la française, malheureusement, au moment où nous avons des dirigeants qui pensent que ça fait plus moderne d'imiter l'Amérique de Bush. Alors qu'il fallait défendre l'État-providence. Mais donc, et la philosophie derrière tout ça, elle est fondamentale. Ça veut dire que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut à un moment donné tomber dans le chômage, la précarité, les pratiques addictives, alors là, avec la loi sur la psychiatrie aujourd'hui qu'on est en train de dire, des problèmes psychiatriques. Et que n'importe qui peut en sortir. Vous avez vu les dernières statistiques en fonction de l'origine ethnique des Américains? Alors évidemment, les Africains-Américains sont les plus délinquants. Ceux qui réussissent le moins, ceux qui ont le plus de problèmes de santé, etc. Ceux où il y a le plus de familles monoparentales. Mais j'avais pas besoin de faire des enquêtes. Dès le départ, nous le savions. Et je ne dis pas que certaines mesures ne peuvent pas aider, mais pourquoi le faire à raison de l'ethnicité, alors que les critères objectifs, nous les avons. Et dans les critères objectifs, vous avez quoi ? Les revenus, la question de la santé, le logement, les difficultés linguistiques. C'était un des critères de la circulaire Savary sur les aides.
et des difficultés linguistiques. On n'est pas obligé d'être immigré pour ça. Il y a plus de 3 millions de gens qui sont illettrés en France et qui sont passés par l'école. Alors, oui. Alors, à côté de ça, il y a les mesures contre les discriminations. Je ne développe pas, ça vous connaissez bien. Toutes les formes de participation, et là, l'école française, pour le moment, c'est pas formidable. Il y a des petits progrès par moment, mais je trouve qu'il y a... Je travaille dans un projet Île-de-France sur 18 lycées, et on travaille beaucoup avec les CVL et le CNVL. On ne peut pas dire qu'on progresse beaucoup dans la démocratie scolaire. Et puis, l'accès à la citoyenneté. Quand vous travaillez avec des jeunes qui viennent d'arriver, ils vont avoir une interrogation sur la nationalité et la citoyenneté. La nationalité, il faut que vous soyez au courant un peu de comment on accède à la nationalité en France. Et il faut que vous réclamiez, là je suis à contre-courant, mais je l'ai toujours fait et on l'a fait... au Batignolles, on l'a fait à Montpellier, un minimum de formation juridique sur des questions aussi fondamentales que les titres de séjour et l'accès à la nationalité. Pas pour faire du droit comme si on était en faculté, mais avoir un minimum d'éléments. Juste un point, je ne développe pas parce que j'ai pas le temps. Nous avons des millions de doubles nationaux en France, pas seulement dans le football. Là aussi, on découvre la double nationalité tout d'un coup. Bon. Entre nous, on ne se pose pas de problème quand on fait venir des joueurs de l'étranger qui vont de toute façon garder leur nationalité et qu'on va naturaliser dans les 3 mois. Eux, ça va être extraordinairement rapide. Et ils seront forcément doubles nationaux, puisque la France ne demande pas que l'on renonce à la nationalité d'origine. Donc, nous avons des millions de doubles nationaux. Simplement, une jeune fille qui est double nationale, si elle va voir la grand-mère au moment des vacances, elle perd la protection diplomatique de la France parce qu'elle a la nationalité de ce pays étranger. D'où les mariages forcés, d'où, etc., le marché du mariage, etc. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a de temps en temps, c'est important de le savoir. On a découvert ça trop tardivement dans les écoles françaises, que des jeunes qui partaient en vacances, on ne les revoyait plus. Voilà. Alors, simplement, il n'y a pas d'intégration sans le respect de certaines conditions. Donc, nécessairement un travail fondamental sur la langue, nécessairement un travail sur les fondamentaux de la culture liés à la langue. Je ne sais pas si on le fait. Je ne sais pas si on a le temps de le faire, si on a les moyens de le faire. Mais je crois que c'est essentiel. Je vais y venir progressivement. Sans non plus une relation de la langue à l'histoire du pays. Et là, on a dit n'importe quoi. Vous vous souvenez de nos ancêtres, les Gaulois? Oh là là, qu'est-ce qu'on nous a rabâché sur les ancêtres, les Gaulois. Oui, sauf que ce n'était pas du tout une vision ethnique. C'est récent, l'interprétation ethnique. Nos ancêtres, les Gaulois, ça voulait dire 2 choses à l'école de la République. Et je l'ai appris d'ailleurs comme ça, moi, nos ancêtres, les Gaulois, à la fin des années 40. C'était, nous sommes fils de résistants. C'est Astérix contre les Romains. C'est ceux qui ont lutté contre l'occupation romaine. C'est l'imaginaire de la résistance. On se libère. Alors, vous voyez, là, la République qui se libère de l'occupant. Puis, deuxième justification très importante. Mais les Gaulois, ça veut dire que la France existait avant le baptême de Clovis. Nous ne sommes pas une nation catholique. Il y a des catholiques. Et nous sommes une nation beaucoup plus large qui a existé depuis les grottes de Lascaux et bien avant. Pas en tant que nation au sens moderne du terme. Mais nous ne sommes pas seulement de filiation catholique. C'est ça que l'école de la Troisième République voulait transmettre. C'est étonnant quand même le contresens. Et à l'école publique, évidemment, où j'étais, on apprenait ça Et l'école privée d'à côté, à Bure-sur-Yvette, c'était quoi? Notre ancêtre Clovis, notre ancêtre Jeanne d'Arc. Bah oui, c'est le récit national qui partait de moments fondateurs différents. Bon, alors, c'est vrai que l'histoire est très importante, comment les mots ont leur densité historique, comment, etc. Mais parce que ça, eh ben on ne fait pas de l'histoire de la langue sans parler des valeurs fondamentales du pays dans lequel on est. On ne saute pas à pieds joints dans la démocratie. Quand vous venez de pays de dictature, quand vous venez de théocratie, quand vous venez de pays où, je pense à une amie avec qui j'intervenais hier, réfugiée politique iranienne, qui a accueilli des enfants mineurs isolés iraniens qui ont traversé les frontières dans des conditions invraisemblables, pour qui le blasphème est le crime, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Le blasphème est un crime puni de mort. L'adultère puni de la lapidation. Que l'homosexualité, c'est la tâche la plus irrémédiable qu'un être humain puisse porter. Mais faites attention aux termes que vous utilisez. Il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre du tout dans les mots. Et c'est ceux qu'on nous bassine à longueur de journée, pardon, je ne devrais pas utiliser ces termes, c'est pas bien. Hein. C'est ces mots qu'ils vont entendre à la radio, à la télévision. Ils ne vont pas comprendre le sens. Je dois dire qu'il y a des hommes politiques qui utilisent des mots sans comprendre le sens, manifestement. Donc, c'est... Alors, on va vous dire, on va faire les fondamentaux, on va faire l'éducation civique. C'est une des choses, le CJS et l'éducation civique, c'est ce qui passionne le plus les enfants d'immigrés. Mais faut-il le faire? Faut-il faire cet enseignement comme une éducation civique et le CJS? Comme un vrai débat. Et qu'on s'aperçoit qu'on ne met pas les mêmes choses derrière les mots. Et qu'on ne peut pas imaginer, c'est vraiment, c'est pas dessine-moi un mouton, c'est dessine-moi la démocratie. Qu'est-ce que c'est? Dessine-moi l'égalité. On a fait un travail transversal sur l'égalité. À partir de toutes les disciplines, qu'est-ce que c'est que l'égalité? Eh bien, ce n'est pas la ressemblance, ce n'est pas la symétrie. En mathématiques, on sait que c'est un rapport. Et on sait qu'on peut dire plein de choses sur l'égalité en mathématiques, n'est-ce pas, Catherine? Eh bien, on l'a travaillé en français, en anglais. Mais pourquoi les Anglais n'utilisent pas le terme égalité, sauf en mathématiques? Ils utilisent le terme équité. Tiens, c'est intéressant. En espagnol, comment on dit? En allemand, comment on dit? On utilise les disciplines de l'école. Et pourquoi en éducation physique et sportive, avoir l'égale dignité des enfants, c'est pas qu'ils montent tous à la corde à nœuds ou qu'ils courent tous à la même vitesse? Donc, et vous retrouvez philosophiquement la grande distinction qui fonde la démocratie. L'isonomie n'est pas l'isomorphisme. L'égalité par rapport à la loi, ce n'est pas la ressemblance. Nous ne sommes pas là pour nous ressembler. C'est des choses fondamentales. Et vous les faites avec des jeunes. On le fait dès l'école primaire, certaines choses. Il y a eu de la philo, par exemple, en primaire, avec des choses très intéressantes sur la notion d'égalité. Mais partant de la langue, et ça permet de parler de cette société. Ça permet de dire aussi, oui, on est en démocratie, ouais. C'est pas parfait, hein. Vous allez avoir un rôle à jouer là, parce qu'on a envie de faire des choses, hein, parce que c'est pas formidable, c'est pas fini, c'est pas achevé. Oui, mais comment on va le dire? Comment on va le faire? Alors, les obstacles à surmonter, et je vais terminer bientôt, ouais. Premier obstacle, la victimisation. Oser s'exprimer dans une langue, c'est oser être un locuteur. Vous le savez mieux que moi. C'est-à-dire comment passer au stade où on est un peu acteur de sa vie, un petit peu. Et on pense que ce qu'on va dire va pouvoir être reconnu. Et là, la victimisation des jeunes actuellement, c'est pas acceptable. Vraiment, c'est pas acceptable. Moi, j'en peux plus. Même dame, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Bon. Là, on est dans une situation où il faut retrouver le processus, la trajectoire de l'émancipation. Et alors, le Centre Alain Savary a plein de choses très intéressantes dans ses tablettes sur comment on peut penser la pédagogie de l'émancipation. Et la langue, ça fait partie aussi de ça. Le plaisir de découvrir, d'apprendre, y compris de façon ludique, pourquoi on a à ce point le sens du devoir dans nos écoles aujourd'hui. Tout est devoir, tout est évaluation. Laissez-nous respirer. Et une langue, c'est fait pour respirer aussi. Ça va avec la qualité de l'accueil. Bon, je ne développe pas. Ça va avec le sentiment que le monde est pluriel, de plus en plus pluriel, mobile. J'étais il y a 3 jours en Normandie, formidable. C'était beau, c'était magnifique. J'avais en face de moi que des gens qui étaient nés dans le pays de Caux. C'est beau le pays de Caux, ben oui, mais... Et je me suis mariée avec quelqu'un du village d'à côté. Et mes enfants, ils ont été à telle école. L'école où j'étais été, puis où je suis allée, etc. Et c'était le pays. Et si vous écoutiez bien, c'était pas le pays de Caux. Non. On était à 15 km de différence entre Saint-Valéry en Caux. Ah non, mais Saint-Valéry, c'est pas Dieppe. Et cette façon de se situer. À la fois, c'est agréable. Et en même temps, on se dit, attendez, vous ouvrez les portes et les fenêtres. Il y a autre chose. Donc, si on réintroduit les enfants de migrants dans une vision plurielle, mobile, et par exemple, vous avez vu les panneaux sur ce qui s'est passé en Tunisie dans les lycées ? J'ai fait la tournée des panneaux sur la Tunisie dans les lycées. Alors, sauf dans les établissements, on fait plein de choses. Et alors là, on les connaît, les établissements. Oh, c'était quasiment... Il y a eu, donc, les élèves ont senti qu'il se passait des choses. Ah oui, mais c'était quasiment la carte de la Tunisie. C'est bien. Des photos Tunis. 3 éléments, ça aurait pu être un guide touristique. Mais il y a la révolution là-bas. Une révolution qui peut-être va s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça s'arrête. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ce qui se passe ? Moi non, on est ici. Alors, voilà, bon, l'intégration, c'est aussi l'intégration du reste du monde. Il y a un problème sur l'autorité de la langue commune. L'autorité de la langue commune. La langue commune a une autorité. Mais pourquoi ? L'autorité, pas un pouvoir. L'autorité, pas un pouvoir. Et puis, ça veut dire que comment on fait passer la vision laïque des différences ? Ça, j'y tiens beaucoup. Vous pouvez croire, ne pas croire, changer de croyance. Vous pouvez vouloir cultiver ce que vous avez connu dans votre pays d'origine ou rompre avec ce que vous avez connu. Très souvent, les migrants ont envie de rompre. Parce qu'ils ont fui des choses. On peut rompre en premier, puis après vouloir revenir. C'est tout ça. Qu'on ouvre ces possibilités et qu'on n'enferme pas, qu'on n'emprisonne pas. Et puis, ben, ça veut dire un travail en partenariat. Je vais terminer par là. Les parents, les associations, les autres institutions, on ne peut pas travailler sur la question des enfants migrants sans travailler en partenariat. Et il y a un vrai travail à faire avec les parents, ça ce serait, je reviendrai une autre fois ici pour parler du travail avec les parents, mais je crois que ça, il faut vraiment qu'on l'ait tout à fait présent à l'esprit. Si vous humiliez les parents, vous humiliez les enfants. Et les parents peuvent se sentir humiliés. Parfois, c'est drôle, sinistrement drôle. Mais je ne comprends pas, ils ne viennent pas. Oui, pourquoi ils ne viennent pas ? Mais on a mis pourtant des mots dans le cartable. Ah oui, mais l'ennui, c'est qu'ils ne savent pas lire le français. a mis des mots dans le cartable. Bon. Donc c'est aussi une façon que l'on voit bien dans l'école aujourd'hui, qui est de repenser le statut de la langue commune, le statut de l'enseignant, de l'école, dans l'environnement, de la relation aux parents. Et moi, malgré mon âge, je suis terriblement optimiste dans la volonté de construire une autre école et de faire entendre ce genre de choses. Oui, on peut prendre des choses de l'expérience passée, on peut s'appuyer sur des expériences tout à fait remarquables actuellement, mais quand même, les difficultés de l'école avec un grand E sont telles aujourd'hui que c'est notamment, mais pas seulement, et on le voit avec les enfants de migrants, c'est absolument essentiel qu'on ait une école de l'hospitalité et de la citoyenneté. Et ça, c'est une revendication qu'on a apportée, une école de l'hospitalité et de la citoyenneté. Et ça veut dire où l'enseignant est considéré comme celui qui accueille, qui enseigne et qui a un rôle d'émancipation.